Je l'ai connu en 1990, ça veut dire il y a 36 ans. On s'est retrouvé dans le même Beth Amidrash. Et comme il connaissait ma femme, parce que ma femme est aussi de la communauté de Genève, alors on a tout de suite sympathisé. J'avais déjà remarqué à l'époque, il était donc à Vrère, il n'était pas Rosh Yeshiva, d'étudier du matin jusqu'au soir sans s'interrompre. Et même quand il devait manger dans la pause de midi, il prenait un petit repas, très simple, il le finissait même pas. Et quand il était fatigué, il se reposait sur un banc. Voilà. Il avait sa voiture, il aurait pu rentrer chez lui, prendre un bon repas, mais non, il ne voulait pas perdre de temps. Donc c'est comme ça qu'il se donnait du matin jusqu'au soir. Un an après, donc en 1991, il est venu vers moi, et il m'a dit, tu sais, il faisait déjà à l'époque les séminaires, je crois qu'il les avait commencés déjà en 1987, et il y avait un groupe de Canadiens qui ont demandé, on voudrait une suite à ce séminaire. Rav Shaya, pour lui, c'était très important, la tchouva de tous ses élèves, il était très proche de toutes les personnes sur lesquelles il a eu d'influence. Et quand il a su qu'on lui demandait d'ouvrir une yeshiva, alors tout de suite, il était partant. Et comme on se connaissait, il savait que j'avais une certaine expérience dans tout ce qui est Kirouv. J'avais enseigné dans une yeshiva de Baït Choua auparavant. Alors il m'a demandé de faire partie de son équipe. Et donc, à partir de là, commence notre histoire en commun. Donc une histoire qui date de plus de 30 ans, comme vous avez pu faire le calcul. Et il a été voir le Rav Reuven Elbaz, qu'il connaissait bien, et il lui a proposé d'ouvrir un petit groupe de francophones indépendants dans sa yeshiva. Et le Rav Reuven Elbaz, il a tout de suite accordé. Donc les élèves dormaient dans la yeshiva, mangeaient à yeshiva, mais les cours étaient indépendants dans un endroit qu'il avait débrouillé. Il faut juste savoir que dans l'histoire de la yeshiva de Rachaim, il y a eu plusieurs essais de créer une machlakat française, un groupe français, ça n'a jamais marché. Et là, je peux vous le dire que ça va commencer donc en 91, et très vite, ça va prendre. Ça veut dire qu'on a passé, je crois, 3 ans là-bas. Quelques mois après, on va être déjà... on va devoir ouvrir un deuxième chiour, un troisième chiour. J'ai un souvenir qu'on était 35-40 déjà à l'époque. C'était une révolution. Il faut juste savoir qu'au bout de 3 ans, l'Aïchva va prendre son indépendance. Elle va venir sur Amot. On était dans la Betaklisset à Sfaradi, pas très loin d'ici, pendant peut-être une dizaine d'années. Après, une fois que ce bignan a été construit, on s'est retrouvé ici. Il faut juste savoir que le Rav Shaya aimait énormément ses élèves. Il se donnait entièrement pour eux. Il était très exigeant de lui-même et de nous-mêmes qui étaient dans le corps enseignant. Il était très exigeant. Je sais que j'avais une maman qui a dû faire une petite opération en France et je devais m'absenter. Bon, donc on comprend très bien que je dois y aller, mais malgré tout, il voulait que je trouve un remplaçant, il voulait pas que les élèves se sentent chiourim. C'était inconcevable pour lui. Je vous dis, même sur lui-même, il se donnait à fond. Il était occupé, vous l'avez peut-être pas assez connu, mais il était occupé du matin, depuis le début de la tefila jusqu'au soir ici avec les élèves. Il faut savoir que le Rav Shaya aimait étudier beaucoup la Torah, et malgré tout... son temps était complètement pris par les élèves. Une fois, il m'a demandé, j'étais le voir l'après-midi pour lui parler, il m'a dit, dis-moi, entre nous, Daniel, combien d'heures tu as étudié aujourd'hui? Alors, je lui ai dit, 5, 6 heures, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Il m'a dit, regarde, j'essaie d'avoir une heure pour moi, je n'arrive pas à l'avoir. Mais vous croyez que pour autant, il était nerveux, il renvoyait les élèves? Non, il était là, il écoutait leurs problèmes. Chaque fois qu'on tapait à la porte, elle était toujours ouverte, et tout celui qui voulait lui parler... alors il était toujours disposé à parler. Je vais vous dire autre chose encore. Le Rav Shaya, son point fort, c'était le Kirouv. C'était se rapprocher des gens du judaïsme, c'était les séminaires. Il a ouvert la yeshiva, comme je vous l'ai raconté, parce que c'était l'intérêt des élèves. Il voulait une suite à ce séminaire. Maintenant, regardez le désintéressement du Rav Shaya, malgré que c'est lui qui apportait l'argent, c'est lui qui faisait tout, quoi. C'est lui qui, grâce à lui que ce bignan a été construit. Il était prêt, il y a eu de plusieurs fois des pourparlers que des gens ont proposé de prendre la yeshiva. Il a dit, oh, ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire pour lui, ça lui permettait d'étudier pour tranquillement. Et c'était des gens droits, hein, les gens avec qui il allait affaire. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que je suppose ne me l'a jamais dit, mais je pense qu'il avait réalisé que la personne en question n'allait pas s'occuper, comme il le faisait lui, des élèves, et il ne voulait pas les abandonner, donc il a continué. Mais lui-même, il était prêt à donner sa place. Encore une anecdote. Sachez que jamais il a retenu un élève ici. Jamais il était complètement désintéressé. Et quand un élève voulait partir ailleurs, aucun problème. Alors une fois, je me rappelle, on avait une réunion entre les rabbinim, et pour nous, c'était embêtant, quoi. Des bons éléments, on les veut. Les bons éléments, c'est des exemples pour les autres élèves, c'est aussi pour... Quand on enseigne, on aime avoir des élèves qui comprennent ce qu'on leur enseigne. Et donc, on voulait un petit peu lui dire, fais un petit peu le... freine un petit peu leur départ. Alors, il nous a dit, écoutez, moi, ces élèves qui ont envie de se lancer, de prendre des ailes, c'est leur intérêt. Ils trouveront un endroit où étudier, puisqu'ils ont progressé. Moi, les yeshivas, j'ai ouvert pour celui qui n'a pas où aller, il n'a pas où, sur quelle porte taper. C'est des gens qui sont débutants, qui commencent leur premier pas. C'est pour eux que la yeshiva, je l'ai ouverte. Les autres, ils trouveront leur place. Et moi, cette yeshiva, elle est pour lui, elle est pour eux. Il faut juste savoir que la yeshiva aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi, je pense. La yeshiva ne rentrait pas en compétition. C'est jamais été... Vous savez qu'un peu dans la yeshivot, il y a des comparaisons. Il y a haut niveau, deuxième niveau, il y a Ashkenaz, Farad... Yeshiva de normal, yeshiva de pour Bali Tshuva. Le Rav Chaya, il n'était pas du tout complexé. Comme pour lui-même de son passé, il ne se gênait pas d'en parler. Il pensait aussi que tout Bali Tshuva, c'était un homme qui était aimé par Dieu, comme il dit le Rambam. Et il faisait passer ça aux élèves. C'est-à-dire que toute personne qui était là n'a jamais senti qu'il était moins que quelque chose qui venait étudier. C'est important de le relever parce que ce n'est pas évident. Si on rentre en compétition, c'est au cheshbon des fois, c'est au calcul de l'élève qui va vouloir, on va vouloir le faire ressembler aux autres yeshivot, ou autre, etc. On va lui imposer une tenue qui n'est pas forcément encore, il n'est pas au niveau. Non, Rav Chaya, il savait, on a eu des élèves qui avaient les cheveux longs, qui au début n'arrivaient pas à faire les tefillot. J'ai un souvenir d'un garçon qui avait un papa non-juif, un grand-père non-juif, un arrière-grand-père non-juif. Et un jour, il était rentré dans le grenier de sa grand-mère. Il avait fouillé, il avait trouvé une photo d'un homme qui avait une barbe, c'était en France, et qui avait un chapeau de Napoléon. Il avait une barbe. Il a demandé à sa grand-mère, c'est qui? Il dit, c'est ton grand-père. Il découvrait qu'il avait de l'ascendance juive, il ne savait pas. Et il s'avérait qu'en fait, toutes les mamans étaient juives. Oui, donc il était juif. Et lui et son frère, d'ailleurs, ils sont venus dans les Yeshivot. Son frère, on ne l'a jamais vu, je crois qu'il était chez Rav Samuel. Mais lui, il est venu chez nous. Évidemment, quand il vient chez nous, il vient comme dans les cités universitaires de Paris, avec les cheveux longs. Il ne savait rien du tout. Mais vous n'avez pas lui demander à cette personne de commencer à faire trois tefillot, etc. Non, Rav Chaya l'a laissé libre. Je ne sais pas ce qu'il faisait son Shabbat. Et je peux vous assurer qu'au bout de quelques mois, je regarde, il prend un verre d'eau, je vois qu'il bougeait les lèvres. Je voyais qu'il faisait les tefillotes. Et ce garçon est devenu un bon bachour, il voulait progresser. À un moment donné, il s'est marié, il était en France, je ne sais plus ce qu'il est devenu, mais en tout cas, c'est pour vous dire que la porte était ouverte pour chacun. Et chacun sentait qu'il avait sa place ici, qu'il était un bon... on lui donnait la possibilité de devenir un bon juif, c'est ça le principal. Encore une anecdote. On avait un élève chez nous qui avait progressé. Alors, c'était un vrai, complètement balchoua. Hein. Alors, il était dans le. Ils avaient à un moment donné, quand ils allaient voir des. Ils allaient recevoir des personnes qui. Des donateurs, ce qu'on appelle. Alors, ils avaient un album où on voyait le parcours, comment il était avant, comment il était devenu aujourd'hui. Et on le voyait dans ses photos. Il était. Il était en, alors je crois qu'il était en Afrique, il s'était fait du boucle, enfin bref. Évidemment, il n'avait pas un papa juif, ce garçon. Et à un moment donné, il a progressé, il était un très bon bachour, il était dans une yeshiva. Et en fait, à un moment donné, il a été renvoyé de la yeshiva. Il s'est avéré qu'il a eu à un moment donné une petite faiblesse et sans doute il a fumé un peu de joint. Et on s'est aperçu, on l'a renvoyé. Ben, vous croyez que Rav Shaya va le laisser dans la rue? Il l'a récupéré, il l'a ramené ici, il s'est occupé de lui. Il lui a trouvé un chidour, il l'a marié, il lui a payé, je crois même, son mariage, parce qu'il n'y avait pas un sou. Et c'est devenu un super avraire. Aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un Talmid Chacham. Voilà, j'en dirai pas plus. Il faut savoir que le Rav Shaya, il a financé, il a aidé financièrement des élèves. Ceux qui n'avaient pas, hein. Il y avait des gens qui n'étaient pas aidés. Vous savez qu'il y a des parents qui ne voulaient pas donner un sou. Je dis, c'est quoi cette histoire qu'il va faire de l'Yeshiva? C'était des fois des pressions, des bras de fer. Ou bien c'est des parents qui n'avaient rien à voir, des parents divorcés, des parents... donc comme je vous le dis, des fois les parents étaient goy. Il y avait tout, hein. Il y a eu des guéris, mais il y a eu tout. Ils avaient besoin d'être aidés, ils les payaient, ils leur ont payé leur mariage. Personne ne le sait, hein. Mais, pour certains, je l'ai su. C'est pas par lui en tout cas. Et ça, je sais aussi autre chose, c'est que des fois les élèves étaient repartis en France et la pression de la famille était telle qu'ils ne voulaient pas les aider pour revenir, ils ne pouvaient pas payer un billet d'avion. Ben, vous croyez que Rav Shaya, il va les laisser tomber, il leur payait le billet d'avion pour les ramener. C'était des fois de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Il leur payait le billet. Ce que ça coûtait, ça coûtait. Il les ramenait, il ne voulait pas le lâcher. On va juste, j'ai un peu divisé ça en plusieurs parties. Il faut juste savoir que le Rav Shaya, il est comme, vous le savez, il faisait des séminaires, des séminaires de judaïsme. Au début, quand je l'ai connu, c'était un petit rythme, mais à un moment donné, c'est devenu un rythme fou. C'est-à-dire, un Shabbat sur deux, il n'était pas là. Un Shabbat sur deux, il se trouvait en Chutz Laretz. Alors, il partait le jeudi, il revenait le lundi. Deux, il s'était tellement donné qui était incapable de revenir à Yeshiva pendant deux jours, épuisé. Épuisé. C'était des conférences où il donnait pendant trois jours consécutifs. Il était épuisé. Il rentrait chez lui, il ne revenait qu'au bout de deux jours. Et alors, à peine quelques jours, il reste là. De nouveau, la semaine d'après, il repartait. Il faudra reconnaître la grandeur de sa femme, qui se retrouvait avec des enfants de bas âge, toute seule, un Shabbat sur deux. Et lui-même, il a eu besoin, c'est là qu'il a porté un rave, Majgir Khalishiva, à l'époque, pour justement, parce qu'une semaine sur deux, il n'était pas là. Et il continuait, un Shabbat sur deux, un Shabbat sur deux. Il m'a raconté que chaque fois qu'il prenait l'avion, quand il prenait l'avion pour aller en Chutz Laretz pour faire son séminaire, il sentait une itnagdout. Il avait envie de rentrer à la maison. Il avait envie d'être chez lui, il avait envie d'être à Yeshiva. Il n'avait pas envie. C'est dur, il sentait que c'était dur pour lui. Tous les 4-5 heures d'avion, il avait une idée, mais il sentait aussi dans la raison qu'il fallait qu'il fasse. Il sentait qu'il fallait qu'il fasse, il le faisait. Et il faut savoir aussi que, vous savez, dans les séminaires, il y a des hommes, des femmes, ça lui était très dur, il faisait Shmirat Hayanaim, comme vous le connaissez. On en reviendra sur ça plus tard. Et donc, il a continué un rythme, je vous dis, incroyable. C'était de partout. J'étais en France, c'était au Canada. Juste me revient à l'esprit un petit truc sympathique. Mais qu'une fois, il a raconté que les ségoulottes, il ne les connaît pas bien, quelles sont celles qui sont sûres ou pas. Il était au Canada et il a dit, mais en tout cas, il y en a une que je sais qu'elle est sûre, c'est quand quelqu'un il a avalé une épine de poisson. Et une ségoula qui est marquée qu'on dit une certaine chose. Alors il m'a raconté que les jeunes, ils ont dit, ah ouais, ils ont commencé à prendre des énormes épines, ils ont mis dans la gorge, ils ont dit, on va vérifier. Et ils ont tous dit, ça a marché. Il m'a dit, je ne vous dis pas la panique, parce que c'était des foyers. Enfin bon, c'est une petite anecdote à gaffe. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'était un poids pour sa famille, évidemment, pour lui-même, comme c'était dur. Et à un moment donné, quand Binyamin Benamou, qui a fondé après Torah Box, il a proposé de lui ouvrir un site. Alors il s'est dit, ben, c'est très bien, je vais pouvoir faire un séminaire par Internet. Et donc, ça m'évitera de voyager. Alors, c'est comme ça qu'il va commencer, il va mettre toutes ses grandes conférences sur le site. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vais vous montrer la grandeur. Lui, quand il a trouvé cette solution, il était très content. Ça y est, j'ai plus besoin de trop voyager. pas besoin de partir, je peux rester chez moi. Et en même temps, parce qu'il pensait que comme il avait une énorme influence sur les gens, il pensait que c'était quand même son devoir par rapport à Dieu de pouvoir continuer à avoir cette influence. D'un autre côté, il gagnait aussi, qui n'avait pas besoin de voir toutes sortes de personnes et de voyager dans l'avion. À l'époque, on ne pouvait pas faire un voyage sans qu'il y ait un film, un écran où il fallait mettre ses pieds, sa tête pendant 4-5 heures baissée, c'était très dur. Il enlevait ses lunettes, comme vous le savez très bien. Et alors, écoutez-moi bien, il y a une personne, qui est un avraire, qui venait de temps en temps, on fête régulièrement, il venait un petit peu encourager les élèves et faire des shiurim. Et quand il a appris qu'il a fait quelque chose sur Internet, il a dit, mais comment tu te permets d'ouvrir quelque chose sur Internet, ça va être une mauvaise influence sur les élèves. Il a dit, je traîne un din Torah. Il a été chez un des rabbanim, bon, qui est déjà décédé, mais qui est connu pour un des plus grands canaïm, ça veut dire des gens où il avait de fortes chances qu'il va lui dire « assour ». Vous croyez que Rav Shai peut lui dire « écoute, tu n'es pas content, moi je te demande rien, moi ça me convient cette solution, et donc je ne t'oblige pas à continuer à enseigner chez moi, en fait il lui devait rien ». Ben, le Rav Shai, il a été honnête, il a été. Ils ont été ensemble, et il m'a raconté après, comme je connaissais très bien cet avraire, alors il m'a raconté après que le Rav n'a rien dit, il ne s'est pas positionné. Il n'a rien dit, il n'a pas interdit, donc il a continué, mais l'horaire en question, il n'est plus jamais revenu. Et moi, pour illustrer ce courage d'honnêteté, où il peut savoir que tout ce qu'il a donné après, qui était en fait son site, c'était sa façon de diffuser la Torah à part, la Yeshiva, à très grande échelle. Et comme vous savez, il a eu une influence sur des dizaines de milliers de personnes. Il pouvait tout s'écrouler parce qu'il a été honnêtement... il aurait pu dire, bah, attends, peut-être pas ce gadol, peut-être un autre. Parce qu'en fait, après, il a été voir un Steinman qui lui a dit arrêter les séminaires, si ça te dérange. Si tu as une possibilité de pouvoir, par un autre biais, encourager. Mais à l'époque, c'était pas Steinman, c'était quelqu'un d'autre. Bon. Et bien, voilà. Voilà l'histoire, voilà l'honnêteté du Rav. Je vous raconte encore une autre anecdote dans cette histoire de voyage. Alors, c'était dur, comme je le dis, pour le Rav de voyager. Et une fois, il apprend qu'un donateur, qu'il ne connaissait pas, veut lui donner un don. Et il ne veut pas dire de quelle somme il s'agit. Bon. Rav Shai dit, bon, quand il veut me donner un don, il sait que je dois prendre un avion et que je pense que je vais passer quand même une journée ou deux pour partir. Bon, il a été. Il a dit, l'intérêt de la Yeshiva, j'y vais. Il ne m'a jamais dit, mais moi, quand je savais qu'il devait partir, j'avais su qu'il devait voyager, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez pour savoir de quoi il s'agissait. Alors il m'a dit, dis-moi, entre nous, combien tu penses que ça valait Je lui ai dit, au moins 10 000 $. On ne voyage pas à Rosh Yeshiva pour... Alors il m'a dit, c'était un petit peu plus que le prix du billet. C'était khatsouf hein, de la part de la personne. Il n'en aurait jamais parlé si ce n'est pas que moi j'ai insisté pour lui parler. Il n'a jamais rien dit, personne ne l'a su, ni les élèves, ni le tsevet. On sait qu'il est parti, il est revenu. Il a laissé sa femme pendant 48 heures, je ne sais pas. Il a été allé en tous fatiguant, ça. Ben voilà, je crois que le billet à l'époque c'était 500 $, il a donné 1000 $. Voilà. Il a quand même été. Et vous savez que le Rav ne racontait rien. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que je ne sais pas comment je les ai apprises en étant un peu proche, parce que t'entends, on discutait ensemble au bureau de toutes sortes de sujets. Et donc il y a des choses sur lesquelles j'ai été témoin. Il faut juste savoir qu'il était très à l'aise avec les Baïtchois. Vous savez que le monde des Baïtchois, c'est un monde en soi. Pas tout le monde le comprend. Vous savez, même des grands rabbinim peuvent se tromper parce que c'est un monde en soi. Vous savez, c'est... Vous le connaissez tous, je pense, ceux qui ont eu un certain passé, ils savent très bien que c'est un monde où chacun a une histoire différente, selon son passé. Le Rav Shai était très à l'aise. Chaque personne, il s'est adapté. Et à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait un cas, pourtant je peux vous dire qu'il s'agit de centaines de cas, où j'ai entendu qu'il a fait une grosse erreur, une erreur de ce qu'on appelle de chiculada de une décision erronée. Et il aussi, il faut juste savoir que le Rav Shai était très large. Il ne voulait pas s'approprier que tout le monde vienne chez lui. Le corps enseignant quand même toujours eu près d'une dizaine de personnes, et chaque personne qui avait une affinité avec un rave allait le voir, allait lui parler. Et donc, évidemment, dans mon cas aussi, il y a eu des cas, beaucoup de cas, où des gens venaient me voir et me faisaient confiance. Mais des fois, on devait prendre des décisions. Et bien moi, je sais que quand c'était des décisions qui étaient lourdes, je ne voulais pas les prendre tout seul. Alors j'allais lui parler. Et je voyais qu'en fait, il avait une perception du problème nette, claire. Et en prenant toujours conseil avec lui, on n'a jamais eu de flash, d'erreurs qui aurait pu être se retourner contre nous. Il était très prudent, vous savez, même pour les mariages, des gens qui... Il y a eu des cas, beaucoup de cas, hein. On a eu plusieurs cas. En tout cas, moi, j'étais mêlé. Au début, il s'était fiancé, après, il n'avait plus envie de se marier avec la fille. Alors, vous savez, les rabbinis vont dire... Vas-y, Yazor Hashem, après le mariage, ça va aller, etc. Je sais, on peut dire beaucoup de choses, hein. On peut faire des trucs. Il était très prudent le Rav. Et des fois, ce n'était pas de notre influence. Il y avait d'autres influences. Et ça a causé des divorces. Hein. Des divorces parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ce n'était pas ça. Et le Rav était très, très prudent. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il avait un chikul adat, il avait un entendement sur chaque problème, intelligent, et il ne s'en vantait jamais. Et donc tout celui qui a pris conseil de chez lui n'a jamais regretté. Encore une chose que je vais vous dire au sujet des séminaires, c'est qu'il m'a raconté une fois qu'un ami à lui lui avait raconté, lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé », il m'a montré. Il y avait un site musulman extrémiste. On voyait le Rav Chaya, Et on lui avait prévenu, Rav Chaya m'a dit que les services secrets l'avaient prévenu qu'il faisait partie de quelques juifs français, enfin francophones, qui étaient en danger en France. Il était recherché. Ça se fait que quand on est recherché, et à l'époque, il voyageait encore en France. Hein. Il y avait des galas. Les galas, quand ils font un gala, ça se sait sur le site. Donc il y avait une pire sommette. Le fait de partir en France, c'était se mettre en danger. Alors lui, il téléphonait à Rav David Abertzera, de Naharia, et s'il avait la bracha, il dit, moi le rabbin a fait une bracha, j'y vais. Il n'a jamais eu peur de voyager, il y allait alors qu'il savait qu'il pouvait être éventuellement en danger. Il y allait. Je sais que Jérémy Goetz, le Rav Goetz, qui était avec lui, en tout cas, dans tout ce qui est... le gala lui-même était très protégé, ils mettaient des garde-corps pour éviter, mais on peut pas tout gérer, hein, de l'aéroport au taxi, etc., enfin de à la voiture qui venait le chercher. Mais il n'avait pas peur, il y allait. Il savait que c'était l'intérêt de la yeshiva, il y allait quand même. Voilà. Maintenant, on va parler de la Avodat Hashem du Rav. Comme vous savez, le Rav, il aimait beaucoup la Torah, il a toujours pensé que notre place n'était pas dans ce monde, c'était dans le monde futur. Il s'est préparé. Il n'avait pas peur de la mort. Il savait qu'on passait ce monde, comme on dit dans Pirkei Avot, c'est un prosdor, c'est un vestibule au palais du roi. Il priait au Netz. Et je vais raconter quelques petites anecdotes. Première, c'est que son fils, que vous avez vu, qui a fait le sped d'Itamar, il était jeune, il avait 20 ans. Et un jour, là-bas, il y a eu une friction avec des gens qui n'étaient pas pratiquants, qui ont volé des vélos aux élèves. Et alors, Itamar, donc son fils, il avait une vingtaine d'années, il a couru derrière eux pour récupérer le bien. Et la personne s'est retournée vers lui, lui a enfoncé un poignard dans le ventre. Il a failli perdre la vie. C'était à deux pas, à quelques centimètres. Il a été opéré. Et évidemment, tout de suite, la police a été prévenir le Rav. Le Rav, ils n'ont pas pu l'avoir, le téléphone était débranché. Donc, ils sont venus en pleine nuit le chercher. Il a été, lui avec sa femme, à l'hôpital. Il racontait ça à Rav Samuel, je ne sais pas si vous l'avez entendu, pendant le SPED il y a deux jours, ou pendant plusieurs jours, il était là en train d'être mitrazek beimuna. Et la première chose qu'il dit à son fils, quand il revient, donc il va être sauvé, bien sûr, s'il est là. Il a dit, regarde, ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est que pour le bien. Rien ne... Il ne s'intéressait pas, oh, le salaud, le voyou qui a fait te poignarder, c'était terrible. Jamais, ce n'était pas ça, son message avec son fils. Il était là en train de lui dire, la meilleure chose qui peut t'arriver, si tu t'arrivais cette histoire, c'était pour ton bien, et que rien de Akadosh Baruch Hu ne peut sortir de mal. Voilà, ça c'était la madriga du Rav, avec un fils unique. Autre élément, il avait quelqu'un de sa famille, vous avez vu la voiture, je ne sais pas si vous avez vu la voiture du Rav, c'était une vieille voiture qu'il avait achetée en deuxième main, ou troisième main, j'en sais rien, et qu'elle a duré de 20 ans, hein. Elle avait Arichut Yamim, cette voiture, en tout cas c'était un vieux taco. Et à un moment donné, sachez que ce que personne ne sait, moi je le sais, enfin peu de gens le savent en tout cas, c'est qu'il avait quelqu'un de sa famille qui avait apporté une super Jeep de... je crois, de Suisse, une 4x4, toute neuve. Et en fait, cette personne, son proche, parent, il pensait qu'avec son passeport de Hutzlaret, son personne va s'apercevoir, mais ils sont aperçus qu'il était israélien. Alors, ils lui ont dit, ah, non, non, la voiture, elle est bloquée à Ashdod, on ne te laisse pas, si tu ne payes pas, ici, il faut payer des impôts. Et c'est beaucoup d'argent. Ça peut coûter 80% du prix de la voiture. Donc, c'est énorme. Alors, elle a été bloquée, la voiture. Elle a été bloquée, je crois que c'est son père ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille, qui a dit, on ne va pas laisser comme ça, cette voiture. Ils ont payé, et la voiture s'est libérée. Mais entre-temps, la personne à qui ça appartenait, il n'en avait plus le besoin, il s'était acheté autre chose. Alors, on lui a proposé d'apprendre cette voiture. Il n'avait pas de voiture. Une super voiture, toute neuve. Il a refusé. Il a refusé. Je lui ai dit, pourquoi tu as refusé? Alors il m'a dit, tu me vois, moi, avec une voiture comme ça, Rosh Yeshiva, et je disais, j'ai des enfants à marier, on va se demander, c'est quoi cette personne? C'était quelqu'un de tsanoua, il a refusé, il n'en a pas voulu. Il est resté avec sa vieille voiture, et ça c'est le Rav Shaya. D'ailleurs, je peux vous remarquer, il avait toujours la même cravate, le même costume, il s'habillait la même chose. Pas qu'il manquait d'argent, je ne sais pas. Je pense que c'était pas sans problème. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il prenait un salaire de la yeshiva. Bon, il avait de la famille qui l'aidait, évidemment, mais il ne vivait pas sur l'or. Il était complètement désintéressé. Ah, le frac aussi, il me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, je devrais mettre un frac, normalement. Un frac, c'est l'habit long que mettent les Rosh Yeshiva. Il m'a dit, je ne me sens pas dedans. Tant pis. Vous savez que dans sa voiture, si vous avez pu aller avec lui dans la voiture, toute la route, il restait des Mishnayot, il récitait. Bah, il en fallait apprendre beaucoup, parce que des fois c'était une demi-heure, etc. Il récitait tous les jours. Il lui demandait de prendre un livre pour vérifier s'il ne se trompait pas, et réciter, ou bien il avait des livres Torah toute la route. C'était ça, il ne perdait pas son temps. Vous savez très bien qu'il parlait toujours de Mashiach. Il faut juste savoir que le Rav Shaya, il connaissait tous les Chazal qui parlaient de ça, toutes les prophéties. Et donc, chaque fois qu'il voyait quelque chose qui pouvait ressembler, il s'allumait. Et une fois, il m'a dit, le Rav Shaya, il m'a dit, tu sais, penser au Mashiach, c'est comme penser à la mort. Parce que qu'est-ce qui se passe à la... C'est quoi l'époque du Mashiach? C'est le moment, comme nos sages disent, c'est un moment où on a plus de mérite. C'est un moment où la vérité est tellement claire qu'on n'a plus tellement de mérite. C'est maintenant qu'on a du mérite, maintenant qu'on est dans le rocher. Il dit, mais quand même, il voulait le kvod Hashem, il voulait que le dévoilement de Dieu vienne, et donc il était Metzapé et Mashir. Je veux juste... Il y a encore beaucoup de choses à faire, à dire, mais je terminerai en disant qu'il a eu une grande dame à ses côtés qui l'a toujours encouragé. Comme je l'ai dit pour les séminaires, mais plus que ça. À un moment donné, il a voulu fermer la yeshiva, en fait, c'était trop lourd pour lui de prendre le joug financier. Et nous, on l'avait encouragé à continuer. Et sa femme, elle lui a dit, elle savait combien de sacrifices ça représentait pour elle, elle lui avait dit, non, je pense que tu es fait pour ça, vas-y. Elle a encouragé, elle a poussé à le faire et elle a pris le défi. Donc, il faut savoir aussi que si Rav Shaya a pu se donner autant pour le clan Israël, pour les élèves, pour la yeshiva, c'est beaucoup sa femme qui était derrière. Et donc, voilà, chez Tibadel et Chaim, qu'elle ait une longue vie, qu'elle ait du nachat dans sa vie, qu'elle était une grande dame qui était toujours à ses côtés. et qu'on n'a pas besoin de trop s'inquiéter pour le Rav Chaya. Il a beaucoup de mérite. C'est chez nous qu'il a laissé un grand vide. Et c'était Mishwato Tzorah Betzorah Chaim.